Si, Esther. Eh bien, Pascal, donc, Pascal Leray pour l'interprétation renouvelée.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour ce soir, je vous propose d'interroger les conséquences qu'entraîne pour notre pratique de l'interprétation la thèse nouvelle que Lacan amène en 1973 dans Encore, avec laquelle il redéfinit l'inconscient comme savoir en tant qu'il se jouit. L'inconscient, en devenant un savoir se jouissant dans la parole, à l'insu même de celui qui parle, se fonde sur le fait que les deux dimensions du signifiant et de la jouissance, conçues auparavant comme hétérogènes, entrent ici en équivalence. Le signifiant devient cause, vecteur de jouissance. L'incidence sur la façon de concevoir l'interprétation, ayant pour visée de toucher à la jouissance du symptôme, est directe, dans la mesure où le symptôme est ce qui manifeste l'inconscient d'un sujet d'une façon singulière et constante. À partir de là, et dans les séminaires qui suivront, où Lacan développe sa théorie des nœuds, le symptôme sera repensé dans RSI comme fonction de jouissance, comme, je cite, la façon dont chacun jouit de son inconscient en tant que l'inconscient le détermine. Et c'est là qu'il situe le symptôme, comme ce qui de l'inconscient peut se traduire par une lettre identique à elle-même. Hein? La lettre identique à elle-même, ce qui veut dire non substituable par un signifiant. Comment dès lors, telle est ma question, l'interprétation pourra-t-elle atteindre à ce qui, dans le symptôme, vient du réel de ce savoir joui? Autrement dit, comment pourra-t-elle avoir accès à ce qui, dans le symptôme, n'est pas métaphore, mais n'est pas métaphorique? Comment sera-t-elle à même de toucher à ce mystère de l'inconscient en tant qu'il est mystère du corps parlant? Si l'inconscient, ce n'est pas que l'être pense, c'est que l'être en parlant jouisse, le symptôme, en tant qu'il est noué à l'inconscient d'un sujet, est déterminé par ce savoir parler qui se jouit, en tant qu'il est fait de la langue. C'est ce jouir opaque du symptôme qui fait que tout du symptôme ne se résout pas par le déchiffrage du sens auquel il résiste à partir de ce qu'il est comme fixation d'origine, faite de cette matérialité jouie de la langue. La distinction introduite dans Encore entre le langage et la langue inconsciente propre au sujet porte aussi à conséquence pour l'interprétation, car le savoir constitué par la langue n'est pas homologue à la structure du langage articulé. Lorsque Lacan nous dit que les signifiants n'y font pas chaîne et que cette multiplicité d'éléments différentiels qui le constituent sont des uns incarnés dans la langue, alors cela renouvelle la question de ce sur quoi l'interprétation doit porter en tant qu'elle doit être ajustée à la dimension de ce savoir hors sens, au cœur de ce qui fait la fixation du symptôme de corps, savoir énigmatique dont est fait le réel du symptôme en tant qu'il est l'exclu du sens. Pour autant, il est important de préciser que ce qui fait la lettre du symptôme dans son hors-sens n'est pas une dimension isolable comme telle, dès lors qu'on la situe dans ce qui fait la structure du nouage borroméen, propre à la névrose. Cette dimension de hors-sens y prend place d'être noué au sens, grâce au dire, à cette fonction qu'a le dire d'être ce qui fait nœud de la structure, comme Lacan le dit aussi dans RSI, dire qui existe aux trois dimensions de la parole qui nouent ensemble. Cibler ce réel du symptôme, en extraire quelques éléments afin de réduire son opacité jusqu'au point où elle s'avérera irréductible, à la fin de l'analyse, nécessite dans l'expérience le dire de l'interprétation qui, usant de la présence de l'équivoque dans la parole, fait signe de l'existence de ce qui se jouit dans le signifiant, au-delà du sens de ce qui est dit. Son dire, apophantique, est ce qui a chance de toucher, dans la parole analysante, au signifiant équivoque. Celui qui agira en entrant en résonance avec la jouissance du symptôme, en faisant passer son jouir, inaudible jusqu'alors, à la jouissance en deux mots. Ainsi, le dire de l'interprétation arrive à émouvoir l'inconscient de l'autre et à toucher l'opacité jouissive du symptôme lorsque, de façon imprévisible, elle fait entrer l'équivocité d'un signifiant dans une résonance avec un élément joui du symptôme, c'est-à-dire avec ce que Lacan a appelé un « un » de jouissance incarné dans la langue. Cet effet de jouissance, qui en passe par le fait d'ouïr un sens, est ce que l'interprétation rend possible lorsqu'elle vise, comme le dit Lacan, un effet de sens réel. Son dire, c'est ce qui porte à l'existence ce réel joui, en le nouant avec la jouissance du sens entre imaginaire et symbolique. Cela nécessite que l'interprétation tienne compte de ceci, que dans ce qui est dit, je cite, « il y a le sonore et que ce sonore doive consonner avec l'inconscient », dit Lacan. Cela exige pour l'analyste une position qui le rende apte à se laisser saisir par la dimension sonore présente dans tel signifiant de la parole de son analysant et de la faire équivoquer de façon à faire sonner autre chose que le sens de ce qui est dit. Cela suppose que l'analyste, dans son écoute, soit décentré du sens qui circule dans la parole et qu'il soit orienté autrement que par le déchiffrage du sens des symptômes. Cependant, cela n'empêche en rien l'opération du déchiffrage de ce qui, dans le symptôme, se présente comme déchiffrable, là où celui-ci trouve à s'écrire dans les lois du langage, dans la dimension signifiante de la métaphore, avec le ressort de la substitution signifiante, qui, d'être déchiffré, révèle le signifiant refoulé du symptôme. Mais c'est alors la dimension de vérité du symptôme qui est touché par le déchiffrage des signifiants singuliers au sujet. Freud, dans ses études sur l'hystérie, nous le démontre parfaitement avec la conversion hystérique. Mais pour autant, le symptôme, ça résiste. Ce n'est pas quelque chose qui s'en va tout seul, nous dit Lacan en décembre 1975, interrogeant par là ce qui est attendu du psychanalyste pour ne pas glisser sur ce qui du symptôme résiste. Rappelons ici comment Freud témoigne dans son texte de 1937 du côté partiel des résultats de l'analyse liés à ce point d'inertie rencontré dans les cures. Il nous parle alors de manifestations résiduelles, de fixations libidinales antérieures maintenues dans la configuration. Il a aussi défini le symptôme de corps en tant que satisfaction substitutive venant s'immixer à la dimension de vérité refoulée. Alors, essayons d'éclairer par un petit retour à la clinique de Freud la portée nouvelle de ce que nous amène Lacan pour situer le ressort de l'interprétation face à la dimension irréductible du symptôme. Reprenons l'exemple de ce cas d'hystérie de conversion présenté par Freud, celui de Frau Cecilie, cette patiente qui souffrait d'une névralgie faciale résistant à tout traitement jusqu'au moment où a eu lieu en analyse la levée du refoulement. Elle se remémore une remarque que son mari lui avait faite il y a bien longtemps et qu'il avait péniblement frappée. C'est comme un coup reçu en plein visage, dira-t-elle à Freud, ce qui a l'effet immédiat d'arrêter la douleur. Et puis, suivra l'apparition d'une série d'autres symptômes de corps douloureux, relevant toujours de la métaphore et de l'équivoque, et dont les signifiants déchiffrés se rapportent toujours à une offense ou à quelque outrage de l'autre, ayant eu des effets percutants sur le corps. Si ce fragment d'analyse restitue le symptôme hystérique comme métaphore de la jouissance de cette parole blessante, nous pouvons soutenir, si ce fragment d'analyse restitue le symptôme hystérique comme métaphore d'une vérité refoulée, nous pouvons soutenir qu'il est aussi métaphore de la jouissance de cette parole blessante. Qui pourrait se lire, c'est une hypothèse, comme jouissance de cette marque sur le corps qu'aura été pour cette femme le signifiant proféré par son mari? On serait là au niveau du symptôme comme événement de corps, comme coalescence, ce qui est autre chose que sa métaphorisation. Je vais y revenir. La question épineuse qui se pose pour l'analyste est de comment opérer pour que la jouissance opaque du symptôme, non substituable par la métaphore et irréductible comme telle, puisse être abordée dans l'analyse de façon telle qu'elle puisse être reconnue comme la limite d'un réel non élucidable et dont il n'y a plus à chercher le sens. C'est bien ce qui reste d'actualité dans la clinique du symptôme du sujet névrosé. Et c'est là où la conception du symptôme comme événement de corps, tel que Lacan l'a forgé dès la conférence de Genève, qui nous ouvre une nouvelle voie pouvant parvenir à réduire le symptôme jusqu'à sa limite dernière, celle à partir de quoi peut être pris la mesure de ce qui n'est pas élucidable. Rappelons dans ce texte rapidement ce qui précide à la formation du symptôme chez l'enfant. Une rencontre accidentelle entre les signifiants venus de l'autre, parental, et le corps de l'enfance. Une rencontre qui est d'avant le sens des mots et qui affecte le corps d'une marque de jouissance hors sens. Le symptôme est ce qui résulte de la coalescence entre ces traces sonores qui ont été jouies dans la langue du sujet et les premiers jouirs liés à la jouissance phallique, étrangère au corps, parasitaire pour le sujet. Là encore, l'accent est mis sur le dire, sur le mode de parler du parent qui s'est adressé à l'enfant. À partir de là, nous pourrons situer un symptôme comme événement de corps à chaque fois qu'il est provoqué par une rencontre accidentelle entre ce qui vient du dit d'un autre dont le dire atteint le sujet jusqu'à toucher à la jouissance de son corps. Il n'y a d'événement de corps que d'un dire en tant qu'il profère un signifiant ayant le pouvoir de résonner dans l'inconscient le plus singulier du sujet, là où gîte sa la langue et qui a cet effet d'affecter son corps de jouissance. Il y va alors d'une rencontre, de se dire, avec certaines marques laissées dans l'inconscient, celles de ces signifiants qui ont été jouis dès l'instant où ils ont atteint l'inconscient du sujet. Ce sur quoi doit porter l'interprétation dans l'événement de corps, c'est sur le dire de ce qui, dans la parole analysante, se jouit dans les signifiants de son inconscient. C'est là où l'interprétation peut toucher à l'un du symptôme, au « y a de l'un » propre à cette jouissance, à charge pour l'analyste d'entendre ce qui se réitère du « un » de jouissance dans la parole de son analysant et de lui permettre d'en dégager le « dire » de l'un qui se sait tout seul, comme répondant au trou du non-rapport sexuel. Si l'interprétation peut extraire ces uns, ces uns, dans le flux de la chaîne signifiante, c'est à partir de leur sonorité, de leur matérialité auquel l'analyste doit prêter l'oreille. Lacan nous rappelle à ce sujet comment Freud a ouvert la piste qui consiste à travailler à partir de la matière verbale. S'il fait une interprétation, c'est de la répétition, la fréquence, le poids de certains mots. Lorsqu'en juin 1974, Lacan nous dit ceci à propos de ce que l'analyste a entendu de son analysant pour interpréter d'une façon opérante sur le réel hors sens. Je le cite. « À cause du fait que nous avons une attention flottante, du fait d'une espèce d'équivoque. Nous nous apercevons, parce que nous le subissons, que ce qu'il a dit pouvait être entendu tout de travers. Et c'est justement en l'entendant tout de travers que nous lui permettons de s'apercevoir d'où émerge cela. Elle n'émerge de rien d'autre que de l'existence de la langue. Entendre ainsi, se laisser atteindre par ce qui fait la dissonance de la langue, suppose d'avoir été formé comme analyste à partir de l'expérience de sa propre analyse. Formé, nous dit Lacan, dans le sens d'avoir vu comment le symptôme, ça se complète, en faisant résonner, sans l'avoir prévu, ce qui de la langue vient à achoper dans la parole. Entendre ainsi pour interpréter met donc en jeu ce qui s'obtient dans la fin de l'analyse avec cet éveil en quoi consiste la dévalorisation de la jouissance du symptôme. Cela suppose d'avoir atteint un certain rapport à ce qui fait la jouissance du symptôme, de la reconnaître comme étant la sienne, de l'avoir un peu débrouillée à partir de quelques-unes de ces bribes venues de la langue, eh bien c'est ce qui permet de changer son propre rapport avec ce qui fait son irréductibilité. Je vous remercie.
Bien, merci Pascal pour ce texte court, pas très court quand même.